Et bienvenue si vous êtes de passage. Et je vous invite de suite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Marc. L'évangile de Marc au chapitre 7. Nous allons lire une histoire, une confrontation qu'il y a eu entre des pharisiens, des scribes, c'est-à-dire des personnes qui étaient religieuses à l'époque du temps de Jésus, avec Jésus lui-même. Et au travers de ce texte, nous allons en tirer quelques leçons. C'est dans l'évangile de Marc, au chapitre 7. Et on va lire à partir du verset 1er. Évangile de Marc, chapitre 7, verset 1er. Voici ce que nous lisons. Les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition, car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition » et vous avez établi, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui, en entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. » Il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Amen. Amen. Donc dans ce texte, nous voyons au tout début une confrontation entre ces pharisiens et Jésus. Et on voit que les pharisiens, les scribes, ils vont faire un reproche à Jésus. En tout cas, ils vont parler à Jésus de ses disciples. Et ils vont lui dire que ses disciples, ils mangeaient, ils prenaient leur repas avec des mains impures. Des mains impures. Impures, ça veut dire des mains qui sont sales, des mains souillées. Et ce qu'il faut comprendre de suite, c'est que les pharisiens, à ce moment-là, quand ils reprochent aux disciples de prendre le repas avec des mains impures, et ce n'est pas une question d'hygiène. Il ne reproche pas aux disciples de ne pas être propres hygiéniquement, de ne pas avoir pris le savon et de s'être lavé les mains. Il parle du fait d'être impur, d'être souillé aux yeux de Dieu. Au final, les pharisiens disent à Jésus que la façon dont ses disciples agissent, la façon dont les disciples prennent le repas, c'est sale, mais aux yeux de Dieu. Parce qu'il nous est dit qu'au verset 3, les pharisiens, les juifs ne mangent pas sans s'être lavé soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et la tradition des anciens, en fait, ce n'était pas se laver les mains et les frotter jusqu'à ce qu'elles brillent, c'était faire couler un petit peu d'eau, un petit filet d'eau sur la main, pour se purifier en fait des personnes qu'elles auraient pu toucher. Par exemple, après, il nous est dit, et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Donc comprenez, c'est de purifier des autres, des gens. Et en fait, ils faisaient tout un rituel avec de l'eau, ce qu'ils appelaient des ablutions, c'est-à-dire qu'ils mettaient un petit peu d'eau, de l'eau sainte, de l'eau bénie, sur leurs mains. Et à partir de ça, ils disaient, ben voilà, maintenant, on est propre devant Dieu, on peut manger d'une manière qui est propre. Donc pour eux, ce qu'ils reprochaient aux disciples, ce n'était pas d'avoir les mains avec des microbes. Ce qu'ils reprochaient aux disciples, c'est d'agir d'une manière qui était impure. C'était d'être impur aux yeux de Dieu. D'ailleurs, c'est pour ça, c'était une discussion qui était religieuse, ce n'était pas une discussion par rapport à l'hygiène. Et vous savez, peut-être qu'on peut avoir cette façon de voir la religion, cette façon de voir la sainteté devant Dieu. C'est-à-dire que si je fais des rites, si je récite certaines prières régulièrement, si je pratique bien certaines choses, certaines ordonnances, je fais ceci, je ne fais pas cela, si j'agis selon une tradition, même une tradition évangélique, vous savez que ça existe, des choses qu'on apprend à faire et puis tout le monde les répète. Et si on fait ça, eh bien c'est bon, on est pur devant Dieu. Si je m'isole des pécheurs, c'est-à-dire que je me coupe du monde complètement, alors je serai pur. Je ne serai pas souillé aux yeux de Dieu. Je serai pur devant Dieu. Mais là, on voit que Jésus, il va complètement s'opposer à cette façon de voir les choses. Jésus va montrer ce qui réellement souille l'homme devant Dieu, ce qui réellement salit l'homme lorsqu'il s'approche de Dieu. Et il va montrer que ce n'est pas une histoire de se laver les mains ou de faire un rituel, c'est autre chose. On le voit au verset 15, Jésus va dire « Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller », comprenez, le salir. « Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille ». Mais comprenez bien, c'est ce qui le souille devant Dieu. C'est ce qui fait que devant Dieu, nous ne sommes pas propres. Au verset 20, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Donc on voit que devant Dieu, ce qui nous salit, les tâches, si vous voulez, que l'on peut avoir, elles ne viennent pas de pratiques, de faire ceci ou de faire cela, elles ne viennent pas du dehors, elles viennent du dedans. Ce qui salit l'homme, il va dire, c'est ce qui sort de son cœur. Alors qu'est-ce qui sort du cœur de l'homme? On regarde au verset 21, et bien il y a une petite liste que l'on va passer ensemble, et cette liste, ce sont les choses qui souillent l'homme. Alors qu'est-ce qu'il va dire au verset 21? Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées. Première chose qui salit l'homme, c'est les mauvaises pensées. Les pensées qui sont tournées vers le mal. Imaginez que là, d'un seul coup, clac, on affiche toutes vos pensées de la journée. Est-ce qu'elles sont toutes bonnes? Je pense que tout le monde partirait en courant de cette église si on pouvait faire ça. Les adultères. Eh oui, les adultères, c'est quand quelqu'un couche avec quelqu'un d'autre que sa femme. Et vous savez, Jésus va dire que celui qui convoite une femme, c'est comme s'il avait déjà commis un adultère avec lui dans son cœur. Le fait de convoiter une personne qui ne nous appartient pas, que Dieu ne nous a pas donnée, avec qui on ne s'est pas uni. Les impudicités, où il y a d'autres versions qui disent les impudicités. L'impudicité, c'est quoi? C'est le manque de pudeur. Au final, c'est montrer une partie de son corps qui est réservée qu'à son mari ou sa femme. Ou bien regarder une partie de quelqu'un qui ne nous est pas destinée. Vous comprenez? C'est regarder des choses qui sont souillées, c'est tout ce qui peut être par exemple la pornographie, des choses comme ça, c'est de l'impudicité, c'est le manque de pudeur, le manque de pudeur. Les meurtres. Et au-delà de l'acte de tuer, Jésus dira que celui qui se met en colère contre son frère, c'est un meurtrier. C'est la haine qu'il y a dans le cœur. Les vols, c'est quoi voler? Voler, c'est prendre quelque chose qui ne nous appartient pas. Ou c'est prendre quelque chose sans l'avoir payé. Donc, je vous laisse l'appliquer à tous les domaines de la vie. Les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement. Le dérèglement, comprenez, c'est le manque de contrôle, les excès en tout genre. Le regard envieux, c'est une autre façon de dire la jalousie, c'est quand je veux ce que l'autre a. Le regard envieux. La calomnie, c'est quand je parle dans le but de nuire à quelqu'un, de faire du mal à une personne. L'orgueil, c'est quand on se croit meilleur que les autres, quand on se croit au-dessus des autres. La folie, c'est quand on sait ce qui est bien et ce qui est mal, mais qu'on choisit quand même le mal. Quand on choisit le mal, c'est qu'on n'a pas de bon sens, c'est qu'on est fou. Toutes ces choses, Jésus dit que c'est ça qui souille l'homme. Toutes ces choses-là, elles portent un nom. La Bible appelle cela le péché. Le péché. Le péché, c'est tout ce qui salit l'homme. C'est tout ce que Dieu décrète comme mal, entre autres ces choses que j'ai énumérées. C'est ce que Dieu définit comme mauvais dans sa parole. Et dans Romains au chapitre 3, au verset 23, il est écrit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et si on prend cette liste, tous, on va se rendre compte qu'à un moment ou un autre, il y a une tâche. On s'est taché. On a fait quelque chose qui, aux yeux de Dieu, nous rend impurs. Aux yeux de Dieu, nous rend comme souillés, sales. Et vous savez, dans l'Apocalypse, quand Jésus va parler du ciel, il va dire que il va en parler comme étant une nouvelle cité, une cité céleste. Il va dire, il n'entrera chez elle rien de souillé. En d'autres mots, rien de sale. Rien de sale. Donc ça veut dire qu'au ciel, chez un Dieu qui est propre, qui est parfait, qui est sans tache, ceux qui ont des taches, ceux qui se sont souillés par toutes ces choses qui ont été énumérées, ne pourront pas entrer. Ne pourront pas entrer. Je le relis, il n'entrera chez elle rien de souillé. Apocalypse 21, chapitre 21, verset 27. Rien de souillé. Alors peut-être que vous allez me dire, oui, mais bon, il y a des grandes taches et il y a des petites taches. C'est sûr que ceux qui font des meurtres, ceux qui font ceci, ceux qui font cela, ça c'est des grosses taches. Mais moi, je ne fais pas de ces grosses choses, moi c'est tout petit. Et je vais vous poser une question. Combien est-ce qu'il faut de taches pour qu'un vêtement soit sale? Sur ma chemise là. Pour qu'il soit sale, il faut quoi? Une grosse tache en plein milieu que tout le monde voit? Une toute petite. Il suffirait d'une petite tache. Et mon vêtement est sale. Vous comprenez? Le propre, c'est quoi? C'est l'absence de tâches. C'est que tout est impeccable, ça va. Mais si, en mangeant, je me fais une petite tâche, bim, je ne peux plus dire que je suis propre. Je suis sali. Vous comprenez? Et souvent, on est là, on compare les tâches. Ouais, lui, il a fait ça, waouh! Puis moi, j'ai fait ça, donc ça va. Mais non, même la plus petite des tâches, même une pensée mauvaise, suffit à nous souiller et nous interdit l'accès au ciel. Mais dans ce texte, Jésus il va aller plus loin. Il va montrer que ce qui nous souille, que le problème en tout cas d'être sale devant Dieu, ça ne vient pas de l'extérieur, ça ne vient pas de nos œuvres, ça ne vient pas de ce que je fais. Le problème, il vient de l'intérieur. Au verset 21, Jésus va dire « car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent toutes ces choses ». Donc effectivement, toutes ces choses, c'est ce qui souille l'homme. Mais si l'homme fait des choses qui le souillent, c'est parce que d'abord, il a un cœur qui est sale. Et c'est parce que le cœur est sale que alors toutes les actions qui en découlent sont sales. La source du problème, lorsqu'il y a toutes ces choses qui ne vont pas, que j'agis de cette manière ou d'une autre manière, le problème, ce n'est pas ce que je fais. Le problème, c'est ce que je suis. C'est mon cœur. Et là, Jésus va dire que toutes ces choses, elles sortent du dedans, du cœur. Donc tout ce qu'il y a à l'extérieur de ma vie, toutes ces choses sales, ont une origine. L'origine, c'est quoi? C'est mon cœur. Et on voit que eux, les pharisiens, leur problème, c'est quoi? C'est qu'ils regardaient à ce qui frappe les regards. Ils voyaient telle œuvre, telle autre œuvre. Ils voyaient que les disciples, ils n'avaient pas fait couler 3 gouttes d'eau sur leurs mains. Tout de suite, c'est ça qui souillait. Mais il nous est dit que Dieu ne regarde pas aux œuvres, qu'il regarde au cœur. Dans 1 Samuel chapitre 16 verset 7, il est écrit que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Donc on voit que le problème, il n'est pas dans ce que je fais. Le problème, il est dans ce que je suis. Et souvent, on croit qu'on est des bonnes personnes qui faisons des mauvaises choses. Mais ça, c'est faux. On est des mauvaises personnes qui faisons de mauvaises choses. Et c'est parce que notre cœur est mauvais qu'alors tout ce que l'on fait n'est pas bon. Si je vole, c'est que j'ai envie d'avoir quelque chose qui n'est pas à moi. Si je suis impudique, c'est que j'ai envie de montrer ou de regarder des choses qui ne sont pas à moi, que je n'ai pas à montrer, etc. Si je suis orgueilleux, c'est que moi, si j'ai tendance à me mettre au-dessus des gens, c'est peut-être que dans mon cœur, je crois que je suis au-dessus des gens, etc. Et tout cela vient de ce que je suis. Dans le Proverbe 4, verset 23, il est écrit « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. » Dans la version Semeur. Ça veut dire que le cœur est à la source de tout ce qui fait ma vie. Ça veut dire que mes pensées, mes actions, mes raisonnements, mes œuvres, tout cela, tout ce qui fait ma vie découle d'une seule chose, de mon cœur. Si mon cœur est bon, ben je ferai des bonnes choses. Si je suis rempli d'amour, ben je vais aimer les gens et je vais faire des œuvres d'amour. Mais si par contre je suis rempli de haine, que je suis rempli de vol, de toutes ces choses-là, ben c'est ce que je vais pratiquer. Le problème n'est pas dans la pratique, le problème il est dans le cœur, dans notre mauvaise nature. Dans Tite, au chapitre 1er au verset 15, il y a ce verset qui dit que tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Et si on va regarder dans Matthieu au chapitre 23, allez, on va les lire ensemble. Si on va dans Matthieu au chapitre 23, Jésus va encore parler aux pharisiens. Et donc Matthieu chapitre 23 et au verset 25, il va dire ceci. « Mais malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissaient beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. » Vous voyez la différence entre le dedans et le dehors ? Les pharisiens, ils avaient un dehors qui était tout beau, qui était tout propre. Mais le problème, il était dans le dedans. C'est que dans le cœur, ça n'était pas propre. Et eux, ce que les pharisiens enseignaient à faire, c'était de nettoyer les œuvres, c'est-à-dire de faire de bonnes œuvres avec un cœur mauvais. Et il était là le problème. C'est pour ça que Jésus dit qu'ils étaient hypocrites. Et d'ailleurs, on voit que dans leurs œuvres, ils disaient qu'ils étaient justes, mais au final, tout ce qu'ils faisaient, ils s'opposaient à Dieu. Vous voyez, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au dedans, c'est plein de rapines et d'intempérance. Nettoie premièrement l'intérieur, et l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur devienne net. Donc on voit au final que si on nettoie le dedans, si le cœur y devient propre, alors tout ce que je ferai sera propre. Mais par contre, si mon cœur y reste sale, tout ce que je vais faire va être sale. Vous comprenez ? Tout est pur pour ceux qui sont purs, et tout est souillé. Rien n'est pur pour ceux qui sont souillés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que pour le moment, là, c'est pas très joyeux. Si on est tous souillés et qu'en plus ça ne vient pas de ce qu'on fait, ça vient de ce que l'on est, de notre cœur, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que je fais quand j'ai une tache sur mon vêtement ? Ben, je vais le laver. Je vais aller à la laverie, enfin, le mettre dans la machine à laver, hop, un peu de lessive, et bim, la chemise, elle va redevenir propre. Qu'est-ce que je fais quand j'ai les mains sales ? Hop, je prends du savon. Je frotte un peu, je lave et mes mains sont propres. Qu'est-ce que je fais quand j'ai un cœur qui est sale ? Ah, il faut le laver. Maintenant, la question, mais comment on fait pour laver un cœur ? Parce qu'à partir du moment, si on a compris comment on fait pour que notre cœur soit propre, alors tout le reste va être bien. Alors comment on fait pour laver un cœur? Cet après-midi, il y a une bonne nouvelle. C'est vrai que vous ne pouvez pas changer votre cœur, mais Dieu, il peut changer le cœur. Vous ne pouvez pas laver votre cœur par vous-même, mais lui, Dieu, au travers de Jésus, peut laver votre cœur. Dans Ézéchiel, au chapitre 36 et au verset 25, voici ce que Dieu va dire. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, donc de tout ce qui est sale. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Donc on voit que Dieu dit, lui qui est le Créateur, qu'il purifierait le cœur. C'est-à-dire qu'il prendrait tout ce qui est sale, qu'il enlèverait ce qui est sale. Et même plus que ça, c'est qu'il prendrait le cœur qui est sale et qu'il donnerait un cœur nouveau. Et ce que moi je ne peux pas faire, lui peut le faire. Dans ce texte, il est écrit, c'est Dieu qui parle, il dit « Je vous purifierai ». Il ne dit pas à l'homme « Lave-toi toi tout seul ». Il va dire « Non, je te purifierai. J'enlèverai tes souillures. Je te donnerai un cœur nouveau. » Et on voit que seul Dieu a le pouvoir de purifier un cœur, d'enlever toutes les tâches, toutes les choses mauvaises que j'ai pu faire dans ma vie. Dieu peut m'en purifier. Il peut le faire. J'allais me dire, mais comment il fait? Comment est-ce que Dieu peut faire pour purifier un cœur? La Bible dit que Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour qu'il meure sur une croix, pour nous purifier de tous nos péchés. La Bible dit que Jésus est celui qui a pris nos fautes sur lui et c'est lui qui a été puni afin que nous puissions être pardonnés. On voit un moment, on peut aller dans l'évangile de Jean au chapitre 13, on voit Jésus qui fait quelque chose de particulier. Au final, ce que va faire Jésus à ce moment-là, c'est une image qui résume très bien tout son ministère. Au verset 2, Jean chapitre 13, verset 2, « Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui dit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds, pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui allait le livrer, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. » Donc on voit dans ce texte que Jésus va s'abaisser, il va prendre un linge, et il va laver les pieds des disciples. Donc au final, on voit que Jésus va prendre ce linge et va laver les pieds. Après, qu'est-ce qui se passe ? Quand il fait ça, elle est où la souillure? Les pieds étaient sales. Jésus s'abaisse, prend un linge et va frotter, nettoyer les pieds des disciples. Et on voit que les pieds vont être propres, mais que toute la salissure, elle va être où? Elle va être sur le linge. Elle va être sur Jésus. Et ça, c'est exactement l'image qui représente ce que Jésus a fait à la croix. C'est qu'à la croix, il s'est humilié et il a pris nos fautes, nos saletés, nos souillures sur lui. Et après qu'il les ait pris et qu'il se soit chargé de nos péchés, il a été puni pour nos péchés. Et parce qu'il s'en est chargé, et parce que c'est lui qui a été frappé, qui a été puni pour nos fautes, nous, nous pouvons être purs. Et ce qui purifie un cœur, ce qui enlève les taches d'un cœur, c'est que c'est Jésus qui les a pris et qui a été puni pour nous à la croix. Et si nous, si chacun d'entre nous cet après-midi, nous pouvons être purs, nous pouvons avoir un cœur tout propre, c'est parce que Jésus a accepté d'être puni pour nous et de mourir à la croix pour nos péchés. Vous allez vous dire, c'est moi qui méritais d'être puni pour mes péchés, mais c'est Jésus qui les a pris et qui a été puni. Et parce que lui, il a été puni, nous, nous ne le sommes plus. Si nous acceptons que ce soit lui qui prenne nos fautes, qui prenne nos péchés sur le bois à la croix, alors nous ne serons plus punis et même nous pouvons avoir un cœur qui est purifié. Dans 1 Jean, dans la première épître de Jean au chapitre 1er au verset 9, il est écrit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dans la même épître de Jean au chapitre 7, il nous est dit que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et cet après-midi, vous pouvez tous ressortir de ce lieu avec un cœur qui est propre uniquement à cause de ce que Jésus a fait. Et les pharisiens, eux, ils croyaient que c'était en faisant ceci et en faisant cela qu'ils allaient avoir un cœur qui est pur. En fait, ils se confiaient dans leurs œuvres, dans leur religion, dans la pratique de telle chose ou de telle chose. Mais la Bible dit que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais que c'est par la foi en Jésus-Christ. Et pour être sauvé, il ne faut pas se confier dans ce que moi je peux faire, dans des rituels, dans des choses, il faut se confier dans ce que Jésus a fait pour nous. Parce que le seul qui est capable de laver un cœur, le seul qui est capable d'ôter les souillures du cœur, c'est Jésus-Christ. Mais ce qu'il nous demande, c'est non pas de nous laver par nous-mêmes, parce que nous ne le pouvons pas, mais c'est d'accepter son œuvre à la croix. Et on voit dans le texte de Jean que Pierre, il était là, il disait « Ah non !» Mais Jésus va lui dire « Mais si je ne fais pas ça, tu n'auras pas de part avec moi. » Et si l'on veut être sauvé, il faut accepter que l'on est sale, se reconnaître pécheur, mais accepter aussi l'œuvre de Jésus qui s'est abaissée pour laver nos souillures. Et celui qui accepte ça, alors il est purifié. Et parce qu'il est purifié, toutes ses œuvres, toutes les pensées, tout ce qui découlera de ce cœur sera pur. Je relis, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Donc on voit que lorsque le cœur est pur, tout est pur. Vous savez, quand le cœur est propre, que je ne désire ni le vol, ni les adultères, ni les impudicités, quand tout ça, ça a été enlevé du cœur, ben après, je ne vais pas chercher ces choses. Et si même un jour, j'y suis confronté, je vais les fuir. Pourquoi ? Parce que le cœur aura changé. Et au final, quand le cœur a changé, tout le reste change. Tout le reste change. Dans Ézéchiel, au chapitre 18, donc dans le même livre d'Ézéchiel, où Dieu va dire à son peuple qu'il leur donnera un cœur nouveau, il va leur dire aussi, au chapitre 18, verset 31, je vais vous le lire, « Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ?» Et là, c'est bizarre, parce que le Seigneur, il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Et puis là, à ce moment-là, il leur dit « Faites-vous un cœur nouveau. » Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Dans un cas, c'est Dieu qui dit « Je vous le donnerai. » Et puis dans l'autre cas, dans l'autre texte, c'est Dieu qui dit « Mais faites-vous un cœur nouveau ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que même si Dieu peut purifier un cœur, même si Dieu peut échanger le cœur, échanger sa propreté contre notre souillure, c'est à nous de le vouloir. Et que même si Dieu peut le faire, et qu'il peut le faire pour tous les hommes, Dieu laisse la liberté aux hommes de l'accepter ou non, de prendre par la foi ou non ce qu'il a eu à la croix. Dieu peut vous donner un cœur pur, un cœur propre. Mais vous comprenez bien qu'un cœur propre, ça veut dire qu'on accepte qu'il n'y ait plus de tâches. Si je veux un cœur nouveau, ça veut dire que j'accepte de perdre le vieux. Si je veux garder le vieux et le neuf à la fois, ça ne peut pas marcher. Si je veux un cœur propre, mais que je veux garder quelques tâches, ben, il n'est pas propre. Il ne le sera jamais. Si je veux qu'il soit purifié, ça veut dire que j'accepte que toutes les tâches soient enlevées. Vous comprenez? Parce que si je suis là, je dis, allez, j'en garde juste une toute petite, mais je ne serai pas propre. Et justement, quand Dieu dit, faites-vous un cœur nouveau, ça veut dire rejeter toutes ces choses qui sont mauvaises, toutes ces tâches, accepter que Christ les prenne à la croix, et alors le cœur, il est propre. Et quand le cœur est propre, tout va bien. Et pour nous qui sommes chrétiens, quand le cœur est propre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le garder propre. Parce que est-ce que ça n'arrive pas des fois qu'on a été purifié? On a eu un cœur nouveau? C'est plus qu'un cœur qui a été lavé, c'est carrément un échange, un nouveau cœur. Mais des fois, est-ce que ça n'arrive pas qu'on se salisse un peu? En tout cas, c'est le sens dans Jean 13. Il va dire, mais déjà vous êtes purs. Déjà les disciples, il y avait un changement de cœur. Mais ils s'étaient quand même salis. Et on voit que malgré le fait qu'on soit chrétien, des fois, il y a des choses qu'on fait, il y a des fois la vieille nature qui est pas très loin, qui fait qu'on se salit. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on se salit? Eh bien, il suffit de rejeter les tâches et de croire au sacrifice de Jésus. Et à chaque fois qu'il y a besoin, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, qui me tâche, eh bien, je reviens à Christ et je lui dis, Seigneur, tu vois, j'ai fait ça, c'est pas bien. Je sais que devant toi, à cause de ce que j'ai fait, il y a de la culpabilité, je ne suis pas propre, alors purifie-moi, lave-moi, purifie-moi de mes péchés par ton sang. Et c'est ce que le Seigneur fait. Et quand il l'a fait, eh bien on est propre. Et parce qu'on est propre, eh bien tout ce que l'on fait va devenir bien. Mais si par contre je commence à avoir des choses qui sont sales dans mon cœur et que je les garde, puis qu'après une petite tâche, il y en a une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, et qu'au final j'arrête de me repentir, j'arrête de rejeter ce que Dieu appelle comme étant mal, eh bien au final je deviens souillé. Et tout ce que je fais, tout ce que je vais commencer à faire, ça sera mauvais. Parce que le problème, ça sera dans mon cœur. Je relis le Proverbe 4, verset 23. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Veille attentivement sur ton cœur.